Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte, avec Pierre à la technique, Sophie au micro. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte, en l'honneur de la semaine de la nature, nous allons partir à la recherche d'histoires concernant les graines, les plantes, les fleurs comestibles. Puisque j'ai déjà parlé des arbres, des plantes, des jardiniers, eh bien aujourd'hui ça va être plutôt vers ce qui se mange que nous allons nous tourner. Et pour commencer, l'histoire de la petite graine de cumin. Le cumin, c'est une plante qui fait partie de la famille des ombellifères, qui serait originaire du Proche-Orient. Le cumin est de la même famille que le persil, même s'il ne se mange pas frais, comme le persil. Il était déjà utilisé en Égypte, il y a au moins 5000 ans, pour ses vertus médicinales. Au Moyen-Âge, il avait tellement de valeur qu'il servait aux serfs de monnaie d'échange pour s'affranchir. La partie consommable de la plante, c'est la graine qui est séchée et parfois réduite en poudre. Et pour devenir un épice, il peut aussi être distillé et pour obtenir une huile essentielle. Le cumin noir est aussi appelé nigel. Il a de très jolis autres noms comme herbe aux épices, cheveux de Vénus, barbe de capucin, pattes d'araignée, barbiche ou cheveux d'ange. Ces graines noires sont nommées poivrettes. Voici donc l'histoire de la petite graine de cumin. Cette histoire se passe à Tunis. Il y avait une femme, encore jeune, qui était servante au palais du roi, du sultan. Elle n'était pas mariée, mais elle rêvait d'avoir un enfant. Lorsqu'elle voyait une poule qui s'occupait de ses poussins ou des enfants en train de jouer dans la rue, elle se mettait à pleurer. Et même les jeunes feuilles des arbres ou les petites pousses qui sortent de terre la rendaient mélancolique. Et voilà qu'un soir, alors qu'elle était en train de faire du pain, elle avait pétri sa pâte, le four était chaud. Elle a vu là des petites graines de cumin et elle s'est dit « Ah là là, même le cumin fait des petits, alors pourquoi pas moi ?» Elle a ramassé soigneusement toutes les graines qui étaient sur la table, elle les a mêlées à sa pâte à pain, elle a pétri un petit peu, elle a mis son pain à cuire. Et à mesure que le pain cuisait, il y avait une délicieuse odeur qui se répandait dans toute la maison. Une fois le pain sorti du four, bien doré et tout croustillant, la jeune femme avait faim, elle a mangé, elle a tout mangé. Et puis, rassasiée, elle s'est endormie. Le lendemain matin, elle se sentait pleine d'énergie, elle a chanté toute la journée en faisant son travail. Et après, les jours qui ont suivi, elle se sentait un peu patraque et au bout de 7 mois, elle a accouché. Mais elle n'a pas accouché d'un beau bébé rose et bien portant, elle a accouché d'une petite graine de cumin. Est-ce que vous croyez que la jeune femme a été déçue? Eh bien non, elle était contente, c'était son enfant, elle lui a donné un nom, elle l'a appelé Kmimna, ce qui veut dire petite graine de cumin. Dans une boîte d'allumettes, elle lui a fait un lit, elle a déposé du coton, la petite graine dessus, une petite couverture en coton. Elle a posé la boîte d'allumettes sur une étagère et chaque matin, dès qu'elle se réveillait, elle prenait sa graine sur son cœur, elle la berçait, elle lui parlait, puis elle l'a installée dans la boîte d'allumettes sur l'étagère et elle partait faire son travail au palais du sultan. Mais c'était extraordinaire parce que depuis qu'elle avait eu cet enfant, cette petite graine, eh bien, on aurait dit qu'un bon génie veillait sur sa maison. Lorsqu'elle rentrait du travail maintenant, la maison était bien balayée, tout était rangé, le jardin était arrosé, l'eau tirée du puits et il y avait même un bon repas tout chaud qui l'attendait sur la table. Elle bénissait le ciel et la chance qu'elle avait. Elle serrait sa petite graine de cumin sur son cœur. Elle n'entendait pas le petit rire qui sortait de l'écorce parce que, bien sûr, le bon génie, c'était la jeune fille qui était à l'intérieur de la graine. Dès que la femme était partie au travail, la petite graine sautait de sa boîte sur le sol, elle rebondissait, l'écorce s'ouvrait et une belle jeune fille en sortait. Elle s'activait toute la journée pour nettoyer la maison, s'occuper du jardin, faire tout ce qu'il avait à faire, préparer le repas. Puis elle guettait le retour de sa mère. Dès qu'elle entendait son pas ou qu'elle la voyait au loin sur le chemin, eh bien, elle sautait dans sa graine, la graine rebondissait sur le sol, allait de nouveau se loger dans la boîte d'allumettes. Et il en a été ainsi pendant quelques mois. Puis, voilà qu'un jour, pendant que la femme était au travail, le fils du sultan, qui avait l'habitude d'aller où bon lui semblait, de piétiner les jardins, d'arracher les radis, les salades, les légumes, eh bien, le fils du sultan est arrivé dans le jardin de cette femme. Et là, il a arraché des salades, il a croqué dans des radis, quand soudain, aïe ! Il y a quelque chose qui lui est rentré dans l'œil. Est-ce que c'était un insecte ou une poussière? Il s'est mis à hurler et il se tenait l'œil, il pleurait, il criait. Il est rentré dans son palais en hurlant et les gens qui le voyaient passer, quelques-uns en tout cas, se disaient que finalement, il avait bien ce qu'il méritait parce qu'il était quand même sans gêne. Il est rentré dans son palais en hurlant. Le roi, son père, très inquiet, a fait venir les médecins les plus éminents. Mais c'est très difficile d'examiner le prince parce qu'il criait tellement qu'il ne tenait pas en place en plus. Finalement, les médecins ont dit que bien quelque chose avait tapé dans l'œil du prince. Mais quoi ? Et le soir, la femme, après sa journée de travail et toute l'agitation qu'il y avait eu au palais autour du prince, elle est rentrée chez elle. Et là, elle n'a pas trouvé la maison bien rangée comme d'habitude. Au contraire, tout était sans dessus-dessous, le sol n'était pas balayé. Et dans le jardin, on aurait dit qu'il y avait un éléphant qui avait piétiné le sol. Les légumes étaient tout... On avait marché dessus, les radis arrachés, les salades sorties de terre. Alors elle a appelé, elle est rentrée, elle a appelé Khmimna, Khmimna. Personne n'a répondu. Puis dans la boîte d'allumettes, il n'y avait personne. Oh, elle s'est dit que sans doute sa fille était pour quelque chose dans ce qui était arrivé au prince. Elle a attendu que la nuit soit tombée, puis elle s'est rendue au palais. Alors on connaissait toutes les entrées, elle n'a eu aucun mal à trouver la chambre du prince parce qu'il poussait de tels cris que c'était vraiment facile. Elle est rentrée. Et là, elle a appelé tout doucement, « Khmimna, viens ma fille, allez, la plaisanterie a assez duré, le sultan va finir par se fâcher. » Et alors, de l'œil droit du prince, une petite voix s'est fait entendre. « Eh, c'est que ce malotru a piétiné notre jardin, il a arraché des salades, il a croqué dans des radis, et il n'a que ce qu'il mérite. » « Allez, viens maintenant, ma fille. » Le prince, il en avait arrêté de crier, et il était tellement surpris d'entendre une voix qui sortait de son œil. « Khmimna, voyons, allez, Khmimna, viens maintenant, sinon on va avoir des ennuis. » Bon. « Eh bien d'accord, j'accepte de sortir, mais à une condition. C'est que ce malotru m'épouse. Et devant notaire, je veux un contrat en bonne et due ferme. » « Quoi ? Ah, le prince a le souffle coupé. Moi ? Épouser une graine de cumin ? Pas question. » « Eh bien, comme tu veux, mais moi, je suis bien dans ton œil, alors j'y suis, j'y reste. » Le prince a tenu toute la nuit, mais au matin, il était vaincu, il a capitulé. Quand le sultan, son père, a appris que le prince voulait épouser une graine de cumin, et il s'est dit que mon fils est complètement fou, mais ou alors quelqu'un lui a jeté un sort, hein, il a le mauvais œil, mais qu'y faire ? Le mariage a été organisé, c'était un mariage en petit comité. Il n'y avait que le prince avec son père, la mariée graine de cumin avec sa mère, et puis le notaire. Le notaire a lu l'acte de mariage et à ce moment-là seulement, la petite graine de cumin est sortie de l'œil du prince. Elle a sauté sur le sol, rebondi, l'écorce s'est ouverte et une jeune fille aux yeux brillants, à la taille fine en est sortie. Ah, le prince l'a regardée et elle lui a souri. Elle lui a dit, eh bien, est-ce que tu es toujours d'accord pour m'épouser ? Ah ben, si le prince était d'accord, et le sultan, lui, était bien soulagé. Les mariés se sont presque battus pour savoir qui allait signer le contrat en premier. Et ainsi se termine cette histoire, même si l'histoire de Khmimna et de son prince ne fait que commencer. En tout cas, depuis ce temps-là, en Tunisie comme ailleurs, quand une fille plaît à un garçon ou quand un garçon plaît à une fille, on dit qu'elle ou lui lui a tapé dans l'œil. Et c'était donc l'histoire de la petite graine de cumin. Maintenant, je vous propose un texte de Colette, L'herbe dans l'assiette. Manger cuite les fanes de carottes, brouter cru les feuilles du radis avec le radis. Récupérer le feuillage du scorsonnaire, la jeune ortie, la souche de roseau. Accommoder en salade la racine de ficaire, les pousses des salicornes, j'en passe et des plus amères. Tel est l'apostolat auquel Louis Forest apporta pendant l'ancienne guerre son ingéniosité, sinon son entière bonne foi. Je me souviens de quelques banquets de la poubelle délicieuse. La fin de ces agapes valait mieux que leur commencement. Car après le dessert de fruits séchés, de gâteaux sans œufs et sans farine, d'épines vinettes en marmelade, Louis Forest nous versait, élaboré dans une café au lait de son invention, un café qui ne rencontrait point de détracteurs. Outre les verdures, les herbes sauvages à goût corsé, notre ami prêchait les vertus alimentaires de certaines corolles et leur garantissait, après de loyaux essais, une ferveur unanime. Mais aucun militant ou aspirant poubelliste ne consentit à ingérer la salade de pétales de rose qui entraîna dans son discrédit la décorative capucine. Alors la salade de pétales de rose, peut-être pas, mais par contre, la liqueur de rose. Et voici l'histoire de la princesse Leïla, la fille aînée du grand et célèbre calife Haroun al-Rachid. Leïla aimait la chasse. Et sa hardiesse n'avait d'égal que sa grâce, et en endurance, elle dépassait tous les jeunes gens de son âge. Pour pratiquer en toute liberté son sport favori, elle s'habillait en garçon. Avec un grand turban sur la tête, elle sortait au galop des écuries, et personne ne pouvait se douter que ce cavalier vigoureux était en fait la jeune princesse. Et tandis que ses sœurs se paraient de bijoux, se gavaient de friandises et s'enivraient de propos galants, Leïla quittait en secret le palais royal. Elle gagnait les collines et là, elle éprenait sa monture, elle partait, elle fondait sur ses proies à la vitesse du vent. Mais voilà qu'un jour, la passion de la chasse l'a entraînée très loin dans le désert et la nuit allait tomber, elle ne pouvait plus rentrer au palais. Heureusement pour elle, il y avait un campement de bédouins. Alors elle s'y est rendue sous son déguisement et elle a demandé l'hospitalité. Fidèle à la tradition d'hospitalité des bédouins, le maître des lieux a accueilli ce chasseur égaré. Il a organisé le plus somptueux repas qu'il a pu et il l'a partagé avec son hôte. Puis le repas a été couronné par une coupe de liqueur de rose. Liqueur de rose qui a très vite fait tourner la tête de la princesse. « Homme, sais-tu qui je suis ?» a-t-elle demandé après avoir bu la première coupe. « Eh bien, non, » a répondu le bédouin. « Je suis le serviteur du calife. » Très impressionné, le bédouin s'est incliné. « C'est pour moi un grand honneur de te recevoir dans ma demeure, » a-t-il dit en la resservant de liqueur de rose. Leïla a bu la deuxième coupe et puis elle a dit « Homme, sais-tu qui je suis ?»« Eh bien oui, tu viens de me le dire, ami, tu es le serviteur du calife. » La princesse a éclaté de rire. « Non, non, je t'ai menti, en fait, je suis le grand vizir. » Le bédouin alors s'est prosterné très bas. « T'as présence dans ma tente est une lumière qui m'aveugle, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours, je bénirai Allah de t'avoir mené jusqu'à moi, et il a resservi de la liqueur de rose. Leïla a vidé cette troisième coupe, elle a dit « Homme, sais-tu qui je suis ?»« Altesse, tu viens de me le dire, tu es le grand vizir. » »« Non, je t'ai menti, en fait, je suis le calife en personne, Haroun al-Rachid. » Alors le bédouin s'est tombé face contre terre. « Oh, pardonne à l'humble vermisseau que je suis d'avoir osé lever les yeux sur ta sérénissime présence, » a-t-il dit respectueusement. « Je ne suis même pas digne d'embrasser la trace de tes chaussures. » Et d'une main tremblante, il lui a resservi de la liqueur de rose. Leïla a vidé sa coupe. « Homme, sais-tu qui je suis ?» Tu viens de me le dire, roi d'entre les rois, tu es le sultan. Ma princesse a éclaté de rire. Mais comment peux-tu croire je suis le sultan? Tu as vu quelle allure j'ai? Mais non, je t'ai menti, je ne suis pas du tout le sultan, je suis la princesse Leïla. À ces mots, le bédouin a froncé les sourcils. Par ma barbe. Ah, il a emporté la liqueur de rose en se disant « Mais vraiment, ce chasseur ne supporte pas l'alcool. Et à la cinquième coupe, qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'il est le soleil en personne ou la lune ?» Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Parfois, la vérité est plus difficile à croire que le mensonge.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée. Que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés, rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux.
Maintenant je vais vous donner la recette de l'huile de Saint-Jean, qui est faite à base de millepertuis, une herbe solaire qui pousse dans les prés du début du printemps à la fin de l'été. Elle est aussi appelée herbe du sang de Saint-Jean. Vous remplissez un bocal à moitié de fleurs, vous y versez de l'huile d'olive, vous mettez 15 à 20 jours au soleil et l'huile devient d'un beau rouge, le sang de Saint-Jean. Vous pressez, vous filtrez, vous mettez en flacon. Un massage avec cette huile apaise les douleurs des rhumatismes, des sciatiques, les foulures et les ecchymoses. Le millepertuis doit son nom de petites glandes translucides qui donnent l'impression que les feuilles sont perforées de trous. Et une légende raconte qu'une jeune fille poursuivie par le diable s'est cachée dans un champ de millepertuis et pour la retrouver, le diable a percé toutes les feuilles des plantes. Mais la jeune fille s'est échangée en fleurs et le champ comportait tellement de fleurs que le diable ne l'a jamais retrouvé. C'est que jadis, les plantes parlaient. Elles murmuraient quelle maladie elles guérissaient, mais seulement elles murmuraient ça dans une langue qui était la langue des plantes que personne ne comprenait. Il suffisait d'effleurer leurs tiges ou que le vent les fasse délicatement bouger, les plantes se mettaient à parler. Un médecin s'est mis en tête d'apprendre ce langage, de découvrir le secret du langage des plantes pour ainsi pouvoir soigner les gens avec des remèdes fabriqués à base de plantes. Seulement, comment faire? Comment apprendre cette langue? Il a cherché, il a réfléchi, il y passait ses jours et ses nuits, mais aucune idée ne lui venait. Il ne trouvait pas de solution. Puis voilà qu'une nuit, il a fait un rêve. Dans son rêve, il mangeait de la cervelle de lion mélangée à de la fleur de farine. Et ensuite, les plantes lui parlaient et il les comprenait. Au réveil, il s'est souvenu de son rêve qui lui paraissait plus réel que la réalité. Il a décidé d'essayer. Seulement, essayer, cela voulait dire trouver de la cervelle de lion, ce qui quand même ne court pas les rues. Un jour a passé, puis deux. Le médecin s'est mis en route, il cherchait, et puis finalement, un jour, il a rencontré un homme qui portait une tête de lion. Le médecin lui a fait signe de s'arrêter, et il lui a proposé de l'acheter, il a marchandé, négocié, et finalement, il est reparti avec la tête de lion. Il est rentré chez lui, il a sorti la cervelle, il l'a mélangée avec de la farine, il a pétri un joli pain, puis il a envoyé son serviteur chez le boulanger pour cuire ce pain au fournil du village. Le boulanger, c'était le printemps, il avait peut-être la tête ailleurs, il a oublié ce pain dans le four et le pain a brûlé. Bon, pas complètement, il était juste un peu noirci. Oh ben mince alors, c'est dit le boulanger, le médecin, il n'est pas commode, il va me faire des reproches. Bon ben tant pis, je vais lui faire un autre pain, et puis celui-là, il l'a donné à son apprenti, qui de toute façon avait toujours faim. L'apprenti, il a fait qu'une bouchée du pain, bon, c'est pas si brûlé que ça, après tout. Et puis, l'apprenti, après avoir mangé ce pain, il a senti quelque chose de bizarre dans son corps. Il est sorti prendre l'air pour retrouver ses esprits. Derrière le fournil, il y avait une courette avec des herbes folles. Et là, je les ai entendus chanter, mais c'était différent de d'habitude. Parce que cette fois, il comprenait ce qu'elle disait. Moi, je suis très bonne pour les brûlures et moi, je guéris les entorses. Et moi, les maux d'estomac et pour les maladies de cœur, c'est très... Ah, il s'est penché vers les herbes et il a l'impression qu'il devenait fou, il comprenait tout ce qu'elle disait. Alors il a ramassé des herbes et puis il est sorti, il a couru et il ramassait des herbes, il les écoutait, et il les serrait sur son cœur. Et pendant ce temps, le médecin était rentré chez lui, il a demandé le pain qu'il avait fait cuire chez le boulanger. Son serviteur avait oublié d'aller le chercher. Le médecin, pas très content, a dit « je vais aller moi-même le chercher ». Il est allé chez le boulanger, il a dit « donne-moi le pain que j'ai fait cuire chez toi ». Le boulanger lui a donné le beau pain bien doré qu'il avait fait cuire à la place. Le médecin l'a mangé sur place, puis il est sorti dans la cour, mais rien ne s'est passé. Il est entré, il a demandé au boulanger « mais dis-moi... le pain que tu m'as donné, là, c'est bien celui que je t'avais demandé de faire cuire. Ah ben non, a dit le boulanger, celui-là, je l'ai laissé brûler. Alors j'ai donné à mon apprenti, mais je t'en ai fait un autre. Et pourquoi ? Le médecin a dit non, moi je veux pas un autre, je veux celui que je t'ai donné. Et tant pis, s'il est brûlé, je le mangerai quand même. Ah ben tu peux pas le manger, a dit le boulanger, parce que c'est mon apprenti qui l'a mangé. Puis d'ailleurs, depuis, je sais pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il est parti, j'ai plus revu. Le médecin a été tellement interloqué de savoir que son précieux pain à la cervelle de lion avait disparu, il a pris une crise cardiaque et il est mort, avant d'avoir révélé son secret. Quant à l'apprenti, lui, il avait ramassé beaucoup de plantes et puis il est arrivé dans une ville et là, il s'est installé comme médecin. Et très vite, sa réputation a gagné toute la contrée. Et non seulement il ne demandait pas d'argent, mais en plus, il guérissait tous ceux qui venaient chez lui. Il avait installé ses plantes dans des flacons. Quand quelqu'un lui expliquait de quoi il souffrait, il lui suffisait de regarder la plante qui dansait dans son bocal. Et aussitôt, il fabriquait le remède et la personne était guérie. Et ces malades étaient tellement heureux de ce service qu'il lui faisait des cadeaux et il y en a même un qui lui a donné une maison, Il s'est installé, il vivait bien, et puis il s'est marié. Il était heureux, il a fait venir son grand-père, qui était la seule famille qui lui restait. Et peu à peu, ben, ses connaissances se sont approfondies. Le temps a passé. Et puis, un jour, il était dans son officine avec son grand-père, il caressait son chien. Le chien était bien vieux et le jeune médecin le regardait. Puis soudain, il a eu une idée. Il est allé décrocher un sabre qui était au mur. Et d'un coup, il a tranché la tête du chien. Le grand-père a poussé un cri, mais le jeune médecin lui a dit « Attends, attends !» Il a regardé ses flacons et il a vu une herbe qui dansait dans un des flacons. Alors il l'a sortie, l'herbe lui a dit « Mets-moi autour du cou du chien. » C'est ce qu'il a fait. Il a posé la tête sur le corps, il a soigneusement entouré l'herbe autour du cou du chien et le chien est revenu à la vie. « Bon, ben ça alors !» a dit le grand-père. Ça y est, hurrah, j'ai trouvé le secret de l'immortalité. Maintenant, grâce à moi, tous les hommes seront immortels, je vais les guérir de la mort. Mais il faudrait peut-être quand même que je vérifie que ce remède fonctionne bien sur les humains. Alors il s'est tourné vers son grand-père, il lui a dit, écoute, tu vas me trancher la tête, et ensuite tu feras comme j'ai fait pour le chien, tu poseras ma tête sur mon corps, tu entoureras avec cette herbe, et je reviendrai à la vie. Pas question, le grand-père n'avait aucune envie de lui couper la tête. Mais le jeune médecin a dit, écoute, sinon c'est moi qui te coupe la tête et j'essaie sur toi, alors tu choisis. Bon ben, tant qu'à faire, le grand-père, il a pris le sabre et il a coupé la tête du médecin. Seulement, au moment où il allait saisir l'herbe pour l'enrouler autour du cou du défunt, il y a un ange qui est apparu. Et du bout de son aile, l'ange a frôlé le bocal où était la plante magique. Le bocal est tombé par terre, il s'est cassé et la plante a été réduite en poussière. Et à partir de cet instant, les plantes ont perdu la parole et elles ont cessé de dire quelle maladie elles guérissaient. Quant au jeune médecin, comme il n'y avait plus de remède pour le ramener à la vie, eh bien, il est resté mort. Et aujourd'hui, les humains cherchent les remèdes qui soignent telle ou telle maladie avec les plantes, mais le remède qui empêche de mourir, pour l'instant, eh bien, personne ne l'a retrouvé. Et cette histoire est terminée. Les plantes, les fleurs et maintenant les légumes. C'est l'histoire d'un marchand d'oignons qui s'appelait Fredo. Fredo cultivait un champ d'oignons. Une fois par semaine, il mettait ses sacs d'oignons sur une charrette et allait les vendre au marché. Dans son grenier, il avait toujours des sacs d'oignons qui, comme ça, bien séchés au soleil avant d'être entreposés, se conservaient assez longtemps, même jusqu'à 6 mois. Il vivait comme ça, pas plutôt pauvrement, mais ça lui suffisait. Puis voilà qu'une année, il a plu beaucoup et le mildiou de l'oignon s'est mis dans son champ. Alors, toute la récolte était perdue. Il a essayé tous les traitements qu'il connaissait, infusion de tanaisie, pyrèthre et savon noir, bicarbonate de soude, cuivre, mais rien n'y a fait et il a perdu sa récolte. Alors, dégoûté, il s'est dit, j'en ai assez, je pars. Il a mis dans une barque tous ses sacs d'oignons, et il a lancé sa barque sur la mer, et il a traversé la mer et est allé de l'autre côté du monde. Pendant les quelques jours, quelques semaines qu'a duré la traversée, il s'est nourri de pain et d'oignons. Puis, un jour, il a vu un rivage. Là, il a amené sa barque vers la rive et il est descendu. Et les gens de ce pays étaient très accueillants, donc ils sont arrivés, ils ont apporté à boire et à manger à l'étranger. Et lui, en échange, il leur a proposé la seule chose qu'il avait, c'est-à-dire ses oignons. Mais il se trouve que dans ce pays-là, personne n'avait jamais mangé d'oignons. Ah, ils se sont passés les oignons, ils ont reniflé cette odeur étrange, ils ont goûté, c'était curieux. Et lui, avec son couteau, il coupait des petites lamelles d'oignons et il les donnait aux gens. Puis Fredo a été conduit jusqu'au palais du roi et aussitôt introduit en audience particulière. On a cherché vite un interprète. « Majesté, a dit le jeune homme, j'ai fait un très long voyage, je viens de l'autre côté de la mer et je vous apporte un cadeau de prix, une denrée que vous ne connaissez pas. »« Ah bon ?» a dit le roi. Et alors le marchand d'oignons a présenté un oignon, il l'a tendu au roi. « Respirez ce parfum, majesté, et l'oignon c'est très bon, ça se mange soit cru, soit cuit, c'est excellent pour la santé, ça a des propriétés anticancéreuses, ça contribue à diminuer la pression artérielle chez les hypertendus, c'est un anti-inflammatoire notoire, et vous apporte plus de 150 mg de potassium pour 100 g. Et s'il plaît à votre majesté, je peux aller dans les cuisines royales, montrer à vos cuisiniers quel plat on peut préparer à base de cet aliment formidable. » Le roi était fort curieux de savoir et avec il a incliné la tête, Fredo s'est empressé d'aller à la cuisine et le soir même, la cour et le roi se sont régalés d'une soupe à l'oignon et croûtons, d'une tarte à l'oignon, de boudins aux oignons caramélisés, de galettes de courgettes aux oignons et de confitures d'oignons. Quel succès ! L'herbe parfumée à l'oignon est devenue la grande mode et respirer cette odeur, c'était... Fredo a été logé dans le palais royal, le roi le considérait comme son meilleur ami. C'était un bienfaiteur national. Bon, il était heureux comme ça dans sa nouvelle vie. Il avait tout ce qu'il voulait, même plus. Seulement, au bout d'un certain temps, même s'il était plus aisé dans sa nouvelle vie que dans l'ancienne, malgré cela, son ancien pays lui a manqué. Alors, il est allé trouver le roi. Il lui a dit, « Majesté, voilà, mon pays me manque. Je voudrais retourner chez moi. » Le roi a dit, « Mon ami, je comprends. Mais tu nous as apporté un présent inestimable. Moi, je ne suis pas un ingrat et je ne vais pas te laisser repartir chez toi les mains vides. » Et le lendemain, alors que Fredo allait tirer sa barque sur l'eau, les serviteurs du roi sont arrivés avec les sacs que lui avait apporté rempli d'oignons, les sacs bien rebondis, les ont déposés dans la barque. Fredo a fait voile vers son pays. Dans les sacs, il y avait maintenant de l'or. C'est comme ça que Fredo est revenu très riche dans son pays natal. Il s'est fait construire une belle maison. À la place de son champ d'oignons, il a planté un verger d'oranger et il passait son temps à se promener et à profiter de la vie. Mais il se trouve que son voisin, lui, cultivait un champ d'ail. Et quand il a vu que Fredo était revenu, puis comme il était riche, il s'est demandé comment il avait fait, alors il est allé le trouver. Mais Fredo n'a fait aucun mystère de son aventure, il a tout raconté par le menu, comme il était parti de l'autre côté de la mer, le pays très accueillant et tout. Alors aussitôt, le voisin a rempli d'ail tous les sacs qu'il a pu trouver, et il a frété une barque, il a traversé la mer, il est allé au pays de l'autre côté. Là, les habitants, toujours accueillants, lui ont offert à manger, à boire. Lui, en échange, il leur a proposé de l'ail. Et il se trouve que dans ce pays, personne n'avait jamais vu d'ail, et a fortiori, personne n'en avait jamais consommé. Les gens ont goûté. Ils ont hoché la tête et puis le marchand d'ail a été conduit auprès du roi où il a eu tout de suite une audience spéciale. On a trouvé un interprète et le marchand d'ail a expliqué qu'il apportait depuis son lointain pays un aliment extraordinaire qui avait des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antifongiques et antivirales. Et en plus, c'était un remède qui donnait une longévité extraordinaire. S'il plaisait à sa majesté, il pouvait montrer au cuisinier comment ça se préparait. Le roi a incliné la tête avec grâce et le marchand d'ail est parti dans les cuisines. Et le soir même, la cour et le roi se sont régalés. À l'apéritif, ce fut du beurre d'ail sur des tartines grillées, suivi d'un aioli bien relevé avec de la morue, des légumes et des œufs durs, puis un gigot piqué d'ail et une purée d'ail à l'huile d'olive. Tout le monde s'est régalé. L'odeur de l'ail est devenue le nouveau parfum à la mode, même si l'oignon continuait à être grandement à l'honneur dans cette cour. Le marchand d'ail a attendu un petit peu, puis il est allé trouver le roi. Il lui a dit qu'il se sentait bien, qu'il avait été fort aimablement accueilli, mais que son pays lui manquait trop et qu'il voulait rentrer chez lui. Le roi lui a dit, étranger, je comprends. Écoute, tu nous as apporté un bien très précieux et moi, je ne suis pas un ingrat. Je ne vais pas te laisser repartir les mains vides. Le marchand d'ail, tout content, a attendu le lendemain matin. Il est monté dans sa barque et là, les serviteurs du roi sont arrivés avec des sacs bien rebondis. Et ils ont déposé dans la barque et le marchand d'ail a fait voile vers son pays. Tout joyeux, il se disait « Ah, me voilà riche, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout cet or ?» Mais une fois débarqué, il a ouvert les sacs et le roi n'avait pas menti. Il avait rempli les sacs avec le trésor du royaume, mais maintenant, ce que ce roi avait de plus précieux, ce n'était pas l'or, c'était les oignons. Et c'est ainsi que le marchand d'ail a rapporté des sacs remplis d'oignons. Et oui, alors pour terminer, nous allons parler du pissenlit. Le pissenlit ou dent de lion, qui est nommé pissenlit à cause de ses propriétés diurétiques. Oh, il a des noms, beaucoup de noms, dent de lion, chandelle, chopine, couronne de moine, doudou, fleur des beaux garçons, florion d'or, horloge du berger, laitue de chien. C'est que le pissenlit s'introduit partout, non seulement dans les prairies, les talus, mais aussi même dans les pavés des villes. Ces tisanes sont épuratives, plantes médicinales dans le soin des affections du foie et des reins. Et vous savez, il est courant de faire un vœu lorsqu'on souffle sur les pistils des fleurs de pissenlit. Et jadis, une jeune fille à marier soufflait sur une tête de pissenlit pour faire envoler les graines. Le nombre de fois où elle devait souffler avant que tout ne soit parti était le nombre d'années où elle devait attendre un époux. Alors, le pissenlit, voici une légende amérindienne qui concerne le vent du sud, Shawandatsi. Le vent qui apporte la chaleur et les beaux jours, et qui tous les ans se laisse chasser par le vent du nord, Kabibonaka, au début de l'automne. Le vent du sud, Shawandatsi, est très paresseux. Dès que le dernier flocon de neige a fondu, il se vautre dans l'air, mais reste là à rêver et à fumer jusqu'à l'automne. Et les Indiens disent qu'il est triste et mélancolique parce qu'il rêve à son amour perdu. C'est qu'il y a très longtemps, c'était l'été avec les fleurs, les oiseaux, les papillons, le soleil brillait et une brise tiède caressait les brins d'herbe. Le ciel était tout bleu. Shawandatsi se roulait dans l'herbe en bâillant et frottait ses yeux en sommeillé quand... Hein? Quoi? Il a vu là, loin de lui dans la prairie, une jeune fille aux cheveux d'or. Ah, aussitôt il en est tombé amoureux. Moi, il était trop paresseux pour aller vers elle, alors il restait là, à bailler, à contempler la bouche ouverte, plein d'un désir ardent, mais trop paresseux pour y satisfaire. Elle la fixait jusqu'à en avoir mal aux yeux. Alors, pour se reposer un peu, eh bien, il se tournait sur le côté, puis il s'endormait. À son réveil, il reprenait sa contemplation. Parfois, L'envie lui prenait d'aller parler à sa princesse. Mais toujours, la paresse avait le dessus et restait là, vautrée dans l'herbe. Les jours passaient. Un matin, son réveil, Jawandadze a découvert que sa princesse, ses cheveux blonds avaient disparu à la place, elles étaient tout gris, comme couverts de givre. Eh bien sûr, j'ai trop attendu, s'est-il dit. C'est le perfide vent du nord, Kalibonaka, qui est passé avant moi, et lui, rapide et énergique, il a séduit ma belle et il la retient maintenant prisonnière de givre. Désespéré, Jawandadze a éclaté en sanglots et il a projeté alentour son souffle brûlant. Trop tard, trop tard. Et ce souffle a atteint la jeune fille aux cheveux d'argent. Sa jeune fille a disparu. Toute sa chevelure argentée s'est volatilisée dans l'atmosphère comme des flocons de neige. Elle a disparu. Et c'est que le vent du sud, sans le vouloir, par son souffle, avait fait envoler toutes les graines ailées des fleurs de pissenlit. C'est que son amour, ce n'était pas une jeune fille, c'était une fleur dorée du pissenlit. Et depuis, Jawandadze s'est rendormi, mais à chaque automne, lorsqu'une brise tiède souffle sur la prairie, eh bien, c'est la saison que les Blancs nomment l'été indien. En fait, c'est Jawandadze qui soupire, mélancolique, en regrettant son amour perdu. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne les références de nos contes. Voilà. Alors, La petite graine de cumin dans les contes insolites et insolents de Muriel Bloch aux éditions Cyros. Le texte de Colette Broutille dans Pour un herbier, j'ai trouvé dans la grande oreille le numéro 50, Herbe sage, herbe folle. La liqueur de rose dans Les petits contes malicieux, Goudoul Stéphane Girel aux éditions Milan Jeunesse. Le marchand d'oignons, le marchand d'ail, c'est une histoire que j'ai reçue de bouche à oreille par mon amie conteuse Nathalie Tibur. Et, pardon, j'ai oublié Le secret des herbes, un conte de Macédoine, de la conteuse Anastasia Hortensio, dans Ourson et les Narecnisi, aux éditions L'Harmattan. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saféréole 94.2, l'émission qui compte. Avec Pierre à la technique, Sophie au micro, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h.